à Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30 en universel du mercredi 18 avril 2018. Abdourahmane Dia en direct de Washington. Voici les titres. Coup de théâtre dans le monde du football congolais. Constant Omari, le président de la fédération, en garde à vue pour une affaire de corruption présumée. Au Zimbabwe, plus de 10 000 infirmiers licenciés pour avoir refusé de reprendre le travail. Le gouvernement avait pourtant accepté d'augmenter leur salaire. Le président américain Donald Trump confirme que le chef de la CIA a rencontré en secret le dirigeant nord-coréen. Une équipe de sécurité de l'ONU ciblée par des tirs dans la ville syrienne de Douma, retardant du coup la mission d'inspection sur l'attaque chimique présumée. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous en République démocratique du Congo. Quatre dirigeants sportifs accusés de détournement de fonds ont été entendus ce mercredi par un magistrat. Il s'agit de Constant Omari, le président de la Fédération de football, ses deux adjoints et le responsable de l'administration sportive au ministère congolais des Sports. Leur audition fait suite aux enquêtes initiées par le conseil spécial du président Kabila en matière de lutte contre la corruption. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ils sont poursuivis pour détournement des deniers publics et privés et atteinte aux droits garantis aux particuliers, infraction prévue dans les articles 145 et 180 du Code pénal livre 2 en République démocratique du Congo. Interpellés mardi soir par les inspecteurs judiciaires commis au service du conseil spécial du président de la République en matière de lutte contre la corruption, ces dirigeants sportifs sont depuis en garde à vue au parquet de la commune de Matete à Kinshasa. Ce mercredi, chacun des quatre détenu a été entendu par un magistrat instructeur qui devra au finish décider s'il doit ou non maintenir la garde à vue. Ces interpellations résultent des enquêtes ouvertes début avril 2018 concernant la gestion des fonds que le gouvernement congolais alloue aux équipes nationales et aux clubs pour leur participation aux compétitions internationales. Interdit de sortir du pays, Constant Omari, le président de la Fédération Congolaise de Football Association, également vice-président de la CAF et membre du comité exécutif de la FIFA, deux de ses vice-présidents à la fédération ainsi que le secrétaire général au sport et loisirs et le président du comité olympique congolais Amos Mbayo qui, contrairement aux autres, ne s'est pas présenté au parquet, attendent donc d'être fixés sur leur sort. Entre-temps, la Ligue nationale de football qui organise le championnat national en RDC a suspendu le championnat en pleine phase de play-off pour marquer sa solidarité avec Constant Omari et ses deux vice-présidents selon un communiqué. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Tchad, un lycéen a été tué par balle par un policier à Amtiman, dans le sud-est du pays, à la suite d'une altercation qui a dégénéré. Le commissariat de la localité a été saccagé par les élèves. Selon le porte-parole de la police, les manifestants ont emporté les armes de ce commissariat. Au Nigeria, un vol qui est loin d'être un simple fait divers. En effet, le bâton de cérémonie sans lequel le Sénat ne peut pas se réunir a disparu. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la Chambre haute qui a accusé des partisans d'un sénateur qui a été suspendu. Cette action est un acte de trahison car il s'agit d'une tentative de renversement par la force d'une branche du gouvernement fédéral du Nigeria et elle doit être traitée en conséquence, a déclaré Aliou Sabi Abdullahi. Ce n'est pas la première fois que ce bâton disparaît, son vol étant une manière d'exprimer son mécontentement sur le fonctionnement du Parlement. Licenciement au Zimbabwe de plusieurs milliers d'infirmières en grève, elles réclamaient de meilleures conditions de travail. Eric Manuel Akiza.
Il s'agit d'un licenciement avec effet immédiat. Le vice-président Constantino Chiwenga a dit que le gouvernement agit dans l'intérêt des patients et pour sauver des vies. Il a accusé les grévistes d'être politiquement motivés. Conséquence, le général Chiwenga a annoncé le recrutement des infirmières au chômage et à la retraite pour remplacer celles qui ont été congédiées. Les 17 millions de dollars déjà débloqués et destinés à améliorer les salaires des infirmières serviront désormais à payer les salaires de nouvelles recrues, a-t-il précisé. L'association des infirmières du Zimbabwe a pris connaissance de la décision et a souligné qu'elle restait en grève. Cette semaine, des malades n'ont pas pu accéder aux principaux hôpitaux. Le mouvement de grève des infirmières a été amorcé juste quelques semaines après la fin de l'arrêt de travail des médecins.
Par ailleurs, le Zimbabwe a célébré ce mercredi son indépendance pour la première fois sans Robert Mugabe au pouvoir. Le nouveau chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, a réaffirmé son engagement à organiser des élections générales libres et justes cette année. Robert Mugabe a dirigé le Zimbabwe de l'indépendance en 1980 jusqu'à novembre dernier, quand il a été contraint de démissionner sous la pression de son parti, de l'armée et de la rue. Les autorités sud-africaines ne sont pas contentes de la décision de l'Australie invitant ses ressortissants à faire preuve de la plus grande prudence en raison du niveau élevé de criminalité dans ce pays. Il s'agit du deuxième incident entre les deux pays en l'espace de quelques semaines. En mars, le ministre australien de l'Intérieur, Peter Dutton, avait suscité une vive polémique en Afrique du Sud en affirmant que les agriculteurs sud-africains blancs étaient persécutés en raison de violences criminelles et d'une politique de redistribution des terres. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar a échappé à un attentat à la voiture piégée ce mercredi à Benghazi, dans l'est du pays. Il est sorti indemne d'une tentative d'assassinat après l'explosion d'une voiture piégée au passage de son convoi, a indiqué le bureau d'information du commandement de l'armée nationale libyenne, autoproclamé par le maréchal Haftar. Un civil a été tué, un autre blessé dans l'attaque, a indiqué une source hospitalière.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les préparatifs en vue d'un sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un ont connu une soudaine accélération aujourd'hui, avec la confirmation par le président américain d'une rencontre secrète entre Mike Pompeo, le directeur de la CIA, et le dirigeant nord-coréen à Pyongyang. Le point avec John Linden.
Mike Pompeo a rencontré Kim Jong-un en Corée du Nord la semaine dernière. La rencontre s'est bien déroulée et une bonne relation s'est établie. Les détails du sommet sont à l'étude, a déclaré Donald Trump sur Twitter. La dénucléarisation sera un grand événement pour le monde, mais aussi pour la Corée du Nord, a-t-il ajouté, depuis sa résidence en Floride, où il passe 2 jours avec le premier ministre japonais Shinzo Abe. Autre acteur clé du dossier. Interrogé sur une visite à Pyongyang de Mike Pompeo, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a salué des contacts directs et le dialogue entre le Nord et les États-Unis. C'est donc un vent d'optimisme qui souffle sur cette rencontre entre les États-Unis et la Corée du Nord. Mais bien avant ce face-à-face, le troisième sommet intercoréen depuis la fin de la guerre, prévu le 27 avril, pourrait lui être l'occasion d'aborder la question d'une déclaration officielle pour clore le conflit sur la péninsule. Le président américain a déclaré hier que le sommet entre Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in pourrait servir, avec sa bénédiction, à discuter d'un traité de paix.
En Syrie, une équipe de sécurité des Nations Unies a été visée par des tirs dans la ville de Douma. Aucun blessé n'est à déplorer, mais la mission d'enquête est retardée à cause de l'incident. Raissa Gironde. Voilà, donc on va retrouver dans un instant Raissa Gironde. Je vous le disais, en Syrie, une équipe de sécurité a été ciblée par des tirs dans la ville de Douma. Raissa Gironde.
5 jours après les raids américains, français et britanniques, l'enquête de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques n'a toujours pas commencé en Syrie. Les fonctionnaires onusiens, qui devaient préparer le terrain au déploiement des experts chargés d'enquêter sur l'attaque chimique présumée, ont été visés par des tirs à Douma. Ils n'ont pas été blessés et sont retournés à Damas, selon un responsable de l'ONU. Le chef de l'OIAC dit ignorer quand la mission d'enquête pourra être déployée. Du côté des pays occidentaux, on accuse le régime de Damas et les forces russes de faire obstruction à l'entrée de la ville de Douma, touchée par l'attaque chimique présumée du 7 avril. En face, les forces alliées de Damas sont étonnées de ces déclarations. L'accès des inspecteurs a été compliqué par le fait que des combattants restent encore à Douma, a rappelé la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Le régime syrien vient de bombarder le dernier bastion du groupe État islamique dans le sud de Damas, contraignant les rebelles islamistes de quitter la région. Des opérations de transfert de civils et de combattants vers le nord syrien doivent commencer jeudi, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
En Turquie, les élections présidentielles et législatives auront lieu le 24 juin, soit un an et demi avant la date prévue initialement. L'annonce du président turc Recep Tayyip Erdogan survient au lendemain d'un appel de son allié nationaliste en faveur d'élections anticipées. Plus de 300 personnes, dont une centaine d'étrangers, ont été condamnées à mort en Irak et des centaines d'autres à la prison à perpétuité pour appartenance au groupe État islamique. La plupart des condamnés, dont beaucoup de femmes, sont turcs ou originaires des anciennes républiques de l'Union soviétique. Bill Gates met en garde contre une résurgence du paludisme, faute d'une volonté politique d'éradiquer définitivement la maladie. Le milliardaire et philanthrope américain a fait cette déclaration lors d'un sommet sur le paludisme qui s'est tenu en marge de celui des dirigeants des 53 pays membres du Commonwealth à Londres. La mortalité liée au paludisme était en déclin depuis 2000, avant de grimper à nouveau en 2016 en raison d'une stagnation des efforts pour lutter contre cette maladie mortelle. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique à présent, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Irénée Hermanoudo.
La croissance de l'Afrique subsaharienne devrait atteindre 3,1% en 2018 et s'établir à 3,6% en moyenne sur 2019-2020, prédit Africa Pulse, le rapport semestriel de la Banque mondiale qui analyse l'état des économies africaines et dont la dernière édition paraît aujourd'hui. Les prévisions de croissance tablent sur la stabilité des cours des hydrocarbures et des métaux et sur la mise en œuvre dans les pays de la région de réformes visant à remédier aux déséquilibres macroéconomiques et à stimuler l'investissement. Selon les données rendues publiques par l'administration des douanes du Mali, ce sont au total 149,125 milliards de francs CFA, environ 280 900 000 dollars de recettes douanières qui ont été mobilisées au 31 mars 2018. Ces recettes sont légèrement inférieures de 7,155 milliards de francs CFA, environ 3,4 millions par rapport aux prévisions de recettes initiales qui étaient de 156,280 milliards de francs CFA, environ 295 millions de dollars sur cette période, ce qui correspond à un taux de réalisation de 95,4%. Cap sur le Mozambique qui bénéficiera d'une nouvelle période de grâce pour le remboursement de sa dette envers la Chine et l'Inde. L'accord qui concerne 2,2 milliards de dollars de dette envers les deux pays s'inscrit dans une logique de soutien à ce pays d'Afrique australe. Le but est de libérer les ressources afin de financer des plans dits prioritaires.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Suite des matchs de cadrage, retour de la Coupe CAF.
Oui, les rencontres et les premières qualifications, notamment Enimba qui a fait match nul 0-0 au Nigeria. Suffisant après le match nul un but partout en Afrique du Sud à l'aller contre Wits. Qualification également des Young Africans de Tanzanie malgré leur défaite 1-0 en Éthiopie sur la pelouse de Weleita Dicha. Ils l'avaient emporté 2-0 à l'aller. Les Ghanéens d'Adwana Stars ont perdu 2-1 contre le Fossa Junior de Madagascar mais l'avaient emporté 6-1 à l'aller. Ils se qualifient donc. Qualification aussi grâce au but marqué à l'extérieur d'Alilal du Soudan qui s'est incliné 3-1 face à Akwa United du Nigeria. Mais Alilal l'avait emporté 2-0 à l'aller. Les autres rencontres à suivre, le Djoliba à Bamako contre le MFM du Nigeria, Supersport United contre Gormaya du Kenya ou encore le Raja Casablanca face au Zanaco de Zambie. Hier, l'ASEC Mimosa s'était qualifié après le match nul 0-0 obtenu en Algérie sur la pelouse de Belouizdad. La Mancha de Pointe-Noire avait été éliminée après une lourde défaite 5-1 devant l'AS Vita Club de Kinshasa. L'USM Alger s'était facilement qualifié 4-0 en battant Plateau United. Enfin, Al-Masri d'Égypte avait éliminé le CF Mounana 2-1.
Le Barça accroché en Liga.
Avec un 11 expérimental et sans Lionel Messi au coup d'envoi, Barcelone n'a ramené qu'un petit point de son déplacement au Celta Vigo hier soir. Ousmane Dembélé a marqué. C'est le point perdu ne devrait pas empêcher les Barcelonais devant au classement d'être sacrés champions.
L'Inter de Milan en forme hier soir.
Avant la suite de la 33e journée du Calcio ce soir, l'Inter Milan est 3e avec 2 points d'avance sur la Roma et la Lazio. L'Inter qui s'est facilement imposé 4-0 contre Cagliari.
On termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, les Raptors qui ont croqué les Wizards après une première mi-temps record. Toronto,
le
on y est par
aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahman Dia toujours en votre compagnie et on passe au dossier du jour. Au Nigeria, les responsables militaires de plusieurs pays africains participent à Abuja à une conférence co-organisée par les États-Unis pour renforcer la coopération dans le domaine de la lutte antiterroriste en Afrique. Le correspondant de VOA Afrique au Nigeria, Gilbert Tamba, a assisté aux exercices militaires en marge de ce sommet et voici son reportage.
Le sommet réunit les représentants des chefs des armées des pays africains comme le Cameroun, l'Égypte, le Kenya, le Sénégal ou le Burkina Faso. Objectif principal de la rencontre, parler de la sécurité sur le continent, mais aussi de la menace djihadiste dans certaines régions d'Afrique. Boko Haram au Nigeria, Agbi au Mali et dans la région ouest africaine, les Chebab en Afrique de l'Est. La menace est réelle et c'est pourquoi en plus des débats autour d'une table, il y a aussi des exercices militaires pendant cette rencontre. Le général de brigade de Kwame Ndri Julien, chef d'état-major de l'armée des terres de Côte d'Ivoire.
C'est une action classique où il y a des otages qui sont pris et les forces spéciales appuyées de l'aviation viennent libérer les otages. Et donc, c'est une action classique dans les armées. Et nous sommes très heureux de voir que l'armée nigériane est capable de mener de telles opérations.
L'intérêt croissant des États-Unis pour la lutte contre les groupes djihadistes en Afrique est illustré par la présence des militaires américains dans plusieurs pays d'Afrique, notamment au Niger et au Mali, depuis Barack Obama. Son successeur, Donald Trump, poursuit la même politique. Donald Trump qui doit recevoir dans ce cadre son homologue du Nigeria, Muhammad Buhari, lors de leur prochaine rencontre à Washington le 30 avril. Le général de brigade, Eugène Lebeuf, est le commandant par intérim de l'armée américaine en Afrique.
Nous jouons un rôle d'assistance à nos partenaires africains dans la lutte contre les organisations extrémistes. Donc, notre travail, c'est d'aider à identifier quels sont les besoins et aider à trouver de l'assistance dans le cadre de notre coopération.
L'ancien secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, avait durant sa tournée dans 5 pays africains, dont le Nigeria, sa dernière étape avant son limogeage, promis le soutien militaire de l'administration Trump dans ce domaine. Pour le chef d'état-major de l'armée des terres du Sénégal, ce partenariat a un intérêt commun, le général de brigade Cheikh Wade.
C'est un partenariat, je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'ennemis cloisonnés. L'ennemi est global, il est partout et il est nulle part. Donc tout le monde est concerné par cette menace qui est devenue une menace mondiale. Il n'y a que de façon unie, et dans l'action, dans la solidarité et dans la fraternité que nous pouvons vraiment combattre cet ennemi.
Le Nigeria où se déroule le sommet des militaires fait face à une insurrection sanglante du groupe terroriste Boko Haram dans le nord-est il y a plusieurs années. Mais le chef d'état-major de l'armée nigériane estime qu'avec ces démonstrations réalisées par ces hommes, le Nigeria est prêt avec le soutien nécessaire pour faire face à un déploiement rapide. Le lieutenant général Tukur Buratai.
C'est
Ces démonstrations montrent notre capacité en termes de déploiement rapide. Donc avec l'obtention de logistique comme les moyens de déplacement, nous aurons les moyens d'atteindre toutes ces localités où on ne pouvait pas arriver à temps.
Ces sommets de 4 jours offrent également aux pays participants la possibilité de partager leurs expériences sur la lutte antiterroriste et de trouver une approche commune pour combattre les menaces et les crimes transnationaux tels que la prolifération des armes légères et le terrorisme en Afrique. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur le paludisme. Cette maladie est en progression avec 5 millions de cas supplémentaires en 2016. Comment expliquer cette augmentation? Une conférence est ouverte dimanche au Sénégal pour faire le point sur la lutte contre le paludisme. Quelles sont les politiques mises en œuvre? Où en sont les recherches scientifiques? Le vaccin en cours d'évaluation sera-t-il à la hauteur des espoirs? On en discute dans Washington Forum. Morgan Guerriac avec vous. Rendez-vous ce jeudi à 19h universel sur VOA.
Suite aux affrontements meurtriers entre Peul et Dogon dans le centre du Mali, les bureaux de jeunesse des deux communautés ont tenu hier une conférence de presse conjointe à Bamako sous la bénédiction de leurs leaders nationaux respectifs. Ces deux derniers, Mamadou Togo, président de Gina Dogon, et Abdelaziz Diallo, président de Tabital Poulagou, avaient appelé au calme et à la retenue lors d'une déclaration commune il y a un mois. Nathalie Barge a rejoint Mamadou Togo qui réitère son appel à déposer les armes et invite à de nouvelles rencontres intercommunautaires dans le cercle de Koro.
Entre eux et Dogon, il n'y a aucun problème à partir du moment où les présidents des associations se côtoient, parlent ensemble, mangent ensemble, commercent ensemble et font tout ensemble. Et les jeunes également suivent les pas. Nous avons vu que l'escalade ne s'arrêtait pas et nous avons proposé à ce que tout le monde soit désarmé. Les chasseurs, les peuls, lorsqu'ils seront tous désarmés, celui qui va porter une arme après ce désarmement, il devient hors la loi et on doit l'arrêter et lui donner le traitement qu'il mérite juridiquement.
Est-ce que vous condamnez les propos du maire de la commune de Koporona qui avait exigé que tous les peuls quittent cette commune?
Tout à fait. J'ai même appelé, parce que moi je suis de Koporona, j'ai appelé, j'ai pas pu mettre la main sur le maire, j'ai eu son adjoint. Et je lui ai demandé quelle est la folie qui les a poussés à faire des déclarations de ce genre. Et on me dit que non. Le maire a agi tout seul. Il n'a pas consulté le conseil communal. Et quand des gens l'ont interrogé, il a dit qu'il avait des armes braquées sur lui. Et s'il ne le disait pas, on allait l'assassiner. Alors moi, j'ai dit qu'il fallait qu'il meure en martyr. Ça vaut mieux que de dire à tous les peuples de déguerpir. J'ai salué l'action du gouvernement qui promptement a pris des mesures pour suspendre ce maire-là. Il y aura des poursuites judiciaires également qui sont engagées. Nous voulons la paix. On ne pourrait pas s'accommoder avec des gens qui tiennent des propos va-t-en-guerre.
Des déclarations sont faites donc à Bamako entre les deux communautés. Est-ce qu'il est envisagé de faire la même chose, mais exactement à l'endroit où il y a ces tensions?
Oui, personnellement, j'ai appelé mon chef d'arrondissement, j'ai appelé les autres membres du conseil, j'ai proposé à ce que tous les chefs de village soient réunis en assemblée et qu'on dise aux chefs de village que tous les peuples restent à leur place. Ils ne bougent pas. Et que rien ne va leur arriver parce qu'ils seront protégés.
Est-ce qu'il est prévu des rencontres régulières entre ces deux communautés?
On est en train de travailler à ça. C'est-à-dire que les rencontres intercommunautaires vont se poursuivre.
Voilà, c'était Mamadou Togo, président de Gina Dogon, joint à Bamako.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
L'ancienne première dame des États-Unis, Barbara Bush, est décédée hier à 92 ans. Elle était aussi la mère du 43e président américain, George Bush, le président Donald Trump. Ses prédécesseurs, Barack Obama, Bill Clinton et Jimmy Carter, ont salué sa mémoire. Les drapeaux américains sont en berne sur tous les bâtiments et espaces publics, les postes militaires et les bâtiments de l'US Navy. Eric Manirakiza a joint à Washington l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, Herman Cohen.
J'ai travaillé pour son mari quand il était président. Moi, j'ai été vice-ministre pour les affaires africaines. Donc, j'ai eu beaucoup de contact avec elle. Et aussi, quand nous avons reçu des chefs d'État africains à la Maison-Blanche, elle a reçu des épouses des chefs d'État africains. Elle était toujours très gentille avec elle. Elle a invité pour prendre le café ou prendre le thé. Elle a fait toujours bonne impression. Et aussi avec moi et ma femme, nous étions toujours très confortables dans sa présence. Elle était toujours gentille avec tout le monde.
Pour vous, qu'est-ce qui distingue Barbara Bush des autres premières dames que les États-Unis a connues?
Chaque première dame a sa personnalité. Il y avait des premières dames qui faisaient rien, qui étaient maîtresses de maison et c'est tout. Donc, Madame Bush, elle a passé tout son temps à faire du bien pour la population américaine et surtout pour les gens pauvres. Dans certaines villes où il y a des gens qui était au bas de l'échelle, la classe ouvrière. Elle a fait beaucoup pour ces gens-là.
Que retenez-vous de ses accomplissements?
Elle a décidé que, comme première dame, elle devait faire quelque chose. Et elle a vu qu'aux États-Unis, malgré le fait que nous sommes un pays industrialisé, qu'il y a pas mal de gens qui étaient analphabètes. Manque d'éducation, mauvaise éducation, etc., surtout parmi les minorités, les Afro-Américains, les hispanophones. Elle a fait un grand effort pour que dans les écoles, les enfants, les élèves pouvaient apprendre à lire et écrire. Donc ça, c'était son effort. Et le monde de l'enseignement est très heureux sur ce qu'elle a fait pendant ce temps quand son mari était vice-président et président.
On la surnomme la surveillante, celle qui surveille pour faire appliquer la loi.
Professeur.
Est-ce que vous sauriez pourquoi exactement ce surnom?
Elle surveillait surtout que tout ce que son mari a fait est respecté. Je crois que le plus important conseiller pour son mari, le président. Et c'est pourquoi on dit que s'il y a des gens qui travaillaient pour le président qui ne faisaient pas leur travail bien, elle était là pour mettre l'ordre.
C'était Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
On reste aux États-Unis, où l'urbanisation menace les zones rurales et du coup les activités pastorales et agricoles. Doug Fabioli, propriétaire d'un domaine viticole en Virginie, a décidé d'agir face à cette situation. Il a créé la New Age School, la nouvelle école d'agriculture, dont la mission est d'enseigner le métier de fermier aux futures générations. Le reportage de Faiza Elma, présenté par Marie Benson.
La vie de fermier est difficile, mais Doug Fabioli est persuadé que si les jeunes connaissaient les joies et le sentiment d'accomplissement que procure ce métier, ils adoreraient. Mais pour y arriver, ils doivent acquérir les compétences nécessaires. Cet agriculteur recrute des élèves, mais aussi des enseignants pour son école.
Nous cherchons ceux qui nous aideront dans ce projet, mais qui seront aussi des mentors et enseigneront le métier aux élèves.
Les études ne se passent pas entièrement dehors. Les élèves doivent valider un curriculum de 5 modules regroupant toutes les tâches. Elles vont du nettoyage jusqu'au leadership et l'entrepreneuriat en passant par l'horticulture et l'accueil. Leur apprentissage sera complet quand ils auront appris à utiliser les machines agricoles et la façon de les réparer. Bien sûr, étant propriétaire de vignes, M. Fabioli leur apprendra la fabrication du vin. Megan Tardif fait du vin. Elle est aussi mentor à l'école et enseigne les étapes de fabrication de celui-ci. Elle donne aussi aux élèves les clés pour être un bon dirigeant.
Ce que je préfère en tant que mentor, c'est donner la chance à mes élèves d'enseigner de nouvelles choses. Être un bon leader n'est pas seulement utile dans le milieu professionnel, c'est utile dans la vie.
Le nouveau centre agricole espère voir se développer une nouvelle génération de fermiers talentueux et engagés.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
À la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi à la mise en onde de Sims Lumami et à la console Dan Crafton. Présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com. Au revoir.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.